Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Très heureux de vous voir enfin, parce que mon oreille avait entendu parler de vous. Maintenant, voilà, mon œil vous voit. Donc, très heureux d'intégrer l'Église, d'intégrer l'équipe pastorale. Je tiens à remercier Nathanaël et Elodie pour les contacts que nous avons eus, pour le travail et la collaboration qui s'instaure. Merci également au conseil d'administration et au CS pour leur confiance. Nous avons eu l'occasion d'échanger. Ça reste des moments extrêmement agréables. Et voilà, nous prions à Myriam pour que eh bien, notre venue puisse être une source de bénédiction pour l'Église, mais pour vous également individuellement, et pour nous aussi accessoirement. Voilà, de manière. On aura l'occasion de se présenter, mais notre parcours, nous avons servi dans les églises de Saint-Brieuc, de Saint-Malo, donc ça c'est la Bretagne. Ensuite, Nantes, c'est presque la Bretagne, mais pas complètement, ça dépend. Pour ma femme, ça l'est pas, pour moi, ça l'est, ça dépend d'où est-ce que nous venons. Et ensuite, donc, nous sommes restés une douzaine d'années à Nantes et ensuite nous sommes partis dans la belle station balnéaire de Saint-Denis dans le 93 où nous avons passé 7 merveilleuses années, et c'est vrai, nous avons eu beaucoup de plaisir à servir dans ce contexte si particulier mais où nous avons énormément appris et vu de très très belles choses. Et puis le Seigneur nous a conduits dans la région de Toulousaine. Et nous sommes très heureux de nous y retrouver, très heureux de faire votre connaissance. Nous aurons l'occasion d'échanger un petit peu plus longuement, parce que notre vie n'est pas le sujet ce matin. Okay ? Voilà, je vous propose que nous réfléchissions autour d'un thème que nous connaissons bien. Alors, vous allez apprendre à me connaître un petit peu. Parfois, je peux être un petit peu provocant ou un petit peu provocateur. D'accord ? Donc, vous ne m'en voudrez pas. C'est le jeu, ça fait partie de ma personnalité, mais je crois que vous avez un petit peu l'habitude. Et le titre de la réflexion que nous allons mener ce matin, c'est finalement à quoi sert réellement la prière. Pourquoi ce titre? C'est que dans nos conceptions à nous, à partir du moment où on ne comprend pas réellement les choses, alors on ne peut pas les utiliser et on ne peut pas les vivre de manière efficace. Et même pire, elles deviennent contre-productives. Elles deviennent un sujet de frustration, elles deviennent un sujet de colère, elles deviennent comme une forme de frein pour notre avancement spirituel. Et ce matin, j'aimerais voir trois axes, essentiellement, autour de ce thème de la prière, en me basant sur un verset que l'on trouve dans les épîtres de Paul, notamment celle aux Philippiens, lorsque l'apôtre Paul dit la chose suivante, « Ne vous inquiétez de rien. » Je pense qu'il n'y a pas de verset plus difficile à vivre. D'accord ? Ne vous inquiétez de rien. Mais, première conjonction de coordination, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, point. Et, seconde conjonction de coordination, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Comme je le disais en prélude, il n'y a pas de verset plus compliqué que celui-ci. Ne vous inquiétez de rien. Qui parmi vous y parvient ? Il paraît que nous, les hommes, c'est peut-être plus facile parce qu'on a nos épouses à côté qui gèrent tellement de choses. C'est vrai ou pas ? Là, je mets la moitié de l'auditoire dans la poche. Ok ? Donc, ne vous inquiétez de rien, c'est quelque chose qui est hyper compliqué. Et pourtant, j'allais dire que c'est un axe essentiel de notre vie, tellement les soucis peuvent nous prendre la tête, tellement eh bien, le quotidien peut nous prendre la tête, et tellement eh bien, ces prises de tête et ce petit hamster qui tourne dans sa roue, dans notre tête sans fin, là, peut devenir comme un frein dans notre relation avec Dieu. Et l'antidote eh bien, face à ce hamster qui tourne dans la roue là et qui sans cesse eh bien, vient nous pourrir notre vie, eh bien, l'antidote que Dieu nous a donné, finalement, c'est la prière, c'est la relation que l'on peut avoir avec lui. Alors, sous le terme de prière, on peut mettre des tas de choses. Les plus doctes parmi nous, les grands théologiens, feront la différence entre la louange, qui est le fait eh bien, de parler à Dieu de qui il est, l'action de grâce, de le remercier pour ce qu'il fait, l'intercession, qui est eh bien, de prier eh bien, pour certaines personnes, et la prière, qui est de prier pour nous, de parler à nous. Je pense que notre relation avec Dieu est beaucoup plus complexe que cela. Et j'aimerais voir trois axes avec vous, autour de ce verset, de manière à voir finalement à quoi ça sert réellement de prier. La première chose, c'est qu'on s'aperçoit que la prière, avant toute chose, c'est un partage. D'accord ? C'est-à-dire que l'apôtre Paul, il dira, faites connaître à Dieu vos besoins. Et je crois sincèrement qu'il y a une différence entre la prière telle qu'on peut la vivre dans nos réunions de prière ou à l'église, et la prière telle que l'on peut la vivre dans notre chambre. J'étais stagiaire à l'époque, et j'avais déjà 23, 24 ans, et j'étais dans le bureau de mon maître de stage, et je priais comme j'avais toujours prié, comme on m'avait appris à prier. C'est-à-dire que j'avais mes listes de prières, j'avais mes sujets de prière qui étaient devant moi, qui étaient dans ma tête, et puis nous prions. Et au bout d'une heure, qu'est-ce qui s'est passé ? Après que j'ai eu prié pour toutes les œuvres du mouvement, après que j'ai eu prié pour tous les chrétiens de l'Église, après que j'ai eu prié pour toutes les situations que je pouvais connaître, bref, comme nous avons l'occasion de le faire dans la réunion de prière, et c'est une très bonne chose, j'y reviendrai, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis ? Ben, j'étais à court de sujet. Et là, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu mon maître de stage qui avait les yeux fermés, qui se taisait et qui était, et je l'ai reconnu à ce moment-là, dans la présence de Dieu. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose dans ma relation avec Dieu. Il s'est passé quelque chose dans ma tête, c'est que j'ai compris qu'il y avait une différence entre porter le paralytique, je fais référence au texte de l'évangile de Marc, porter le paralytique, porter celui qui est blessé, porter les sujets au trône de la grâce, comme ces quatre amis l'ont fait dans les évangiles, et comme nous pouvons le faire dans nos réunions d'église, et c'est une très bonne chose, et la relation, la prière telle que je pouvais l'avoir avec Dieu. Alors, j'ai attendu qu'il réouvre les yeux, et puis je lui ai demandé, mais il s'est passé quoi là ? Il m'a regardé en me disant, mais de quoi tu parles ? Mais je lui ai dit, voilà, moi j'avais éclusé mes sujets de prière, et puis j'ai ouvert les yeux, et je vous ai vu, et c'est comme si vous n'étiez plus là. Et cet homme m'a expliqué que lorsqu'il priait, eh bien, il priait sans parler. Et que finalement, c'était l'émanation de son cœur, l'émanation de son âme qui montait vers Dieu et qui lui permettait de partager avec Dieu ce qu'il pouvait vivre. Et je crois que l'essence même de notre relation avec Dieu, c'est d'offrir à Dieu la seule chose qu'il ne peut pas avoir. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. C'est-à-dire que l'émanation de ma relation avec Dieu, ce n'est pas forcément les sujets de prière que l'on peut égrener comme un chapelet, petit côté provocateur, mais c'est ce que ma vie est, c'est ce que ma journée a été, c'est ce que je peux ressentir à l'instant T. L'apôtre Paul dira prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est cette dimension de dire finalement que j'ai vocation à mettre devant Dieu mon cœur tel qu'il est à l'instant T. J'ai vocation à offrir à mon Dieu mon cœur tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est à l'instant T, tel que le Saint-Esprit me le montre. Le Saint-Esprit, à certains moments, peut venir, au travers de circonstances, réveiller des blessures que j'avais complètement enfouies. Et là, tout d'un coup, Dieu souhaite et Dieu désire que je puisse les lui présenter. Et la prière, c'est partager mon quotidien avec Dieu, c'est partager ce que j'ai vécu, c'est partager mon passé, c'est partager mes souffrances, c'est partager mes craintes de l'avenir, c'est partager mes émotions, c'est partager mes sentiments. Et on s'en fiche qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, c'est parfois partager avec Dieu ma colère, mon sentiment d'injustice. C'est exactement ce que David pouvait faire dans les psaumes, lorsque il présentait à Dieu sa souffrance, son sentiment d'injustice, et qu'il pouvait avoir parfois des mots dur lorsqu'il dira à propos de ses ennemis, mais brise-leur la mâchoire. Et moi j'imagine Dieu en train de mettre une grande droite dans la tête de Saül en disant, mais voilà quoi, c'est exactement ce que David demandait à Dieu. Et on s'aperçoit que lorsque David le faisait, lorsqu'il partageait son quotidien, lorsqu'il partageait ses émotions, lorsqu'il partageait ses sentiments, lorsqu'il partageait ses frustrations, la fin des psaumes, et je vous inviterai à les relire, nous n'avons pas le temps de les développer ce matin, cette démarche lui permettait de revenir dans une attitude de foi. Et la seule chose que Dieu ne possède pas, c'est ton cœur. Et sans cesse, il est nécessaire que tu le lui présentes. Et la qualité de ma relation avec Dieu n'est pas fonction du nombre de mots que je peux dire. La qualité de ma relation avec Dieu n'est pas fonction non plus du volume sonore de ma prière, ni même du nombre de versets que je peux citer dans ma prière. Mais la qualité de ma relation avec Dieu est fonction, eh bien, du nombre d'éléments que je peux partager dans une journée avec Dieu. Du nombre de sentiments, du nombre de circonstances. Lorsque ton collègue de travail t'a marché sur le pied ou alors qu'il t'a piqué ton bic 4 couleurs pour la 20e fois et que ça te gonfle et que t'as envie de lui voler dans les plumes, eh bien partage-le à Dieu. Lorsque ta femme t'apprend que ta belle-mère va débarquer et que tout d'un coup tu paniques, mais partage-le à Dieu. Ça c'est moi ça. Et je prie souvent. Vous verrez, je m'entends très bien avec ma belle-mère, mais je ne l'aménage pas. Ouais. Mais c'est ces éléments, lorsque pour X ou Y raison, il y a des éléments, il y a des blessures, il y a des placards qui s'ouvrent avec des cadavres qui sortent, partage-le à Dieu. C'est ça qui fera la qualité de ta relation avec Dieu, la qualité de ta prière. La prière, ce n'est pas une liste d'événements que l'on égrène, mais c'est un partage de qui l'on est, de ce que l'on vit. De ce que l'on traverse, c'est un partage de notre agenda, c'est un partage de nos contacts, c'est un partage de nos relations humaines. C'est ça, finalement, notre relation avec Dieu. Dieu, lui, il partage qui il est. Il partage ce qu'il ressent. J'aime beaucoup ce texte de Paul aux Galates, lorsque il est dit que, finalement, l'Esprit de Dieu nous se manifeste en nous, et lorsque on fait quelque chose de bien, nous pousse à dire « Ah bah Père, quoi !» L'Esprit de Dieu est capable de nous réjouir lorsque nous faisons quelque chose de bien, et donc c'est l'émanation du cœur de Dieu. Dieu partage avec nous ce qu'il désire au travers de sa parole, nous donne des perspectives sur nos vies, Dieu nous apprend quelles sont, j'allais dire, ses perspectives pour notre avenir. Bref, il partage avec nous, et il a tellement partagé qu'il a donné son Fils unique afin que tu et afin que je puisse être sauvé. Dieu partage. Et il nous aime tellement qu'il est même prêt à partager son éternité avec nous, quoi. C'est juste un truc de fou. Qui voudrait passer son éternité avec moi ? Même ma femme, de temps en temps, me dit, bon, ce serait bien si éventuellement, tu allais faire autre chose. Mais Dieu, lui, il est prêt à partager son éternité avec nous. Et c'est notre responsabilité de partager. Et là, on arrive sur un grand mythe de la vie chrétienne. Sur 10 minutes de prière, fermez vos yeux, ou pas. Sur 10 minutes de prière, sur ces 10 minutes, combien de temps passez-vous à prier pour vous ? La réponse que l'on me fait très souvent, c'est « mais je n'ai pas besoin de le faire, puisque Dieu sait. Dieu sait ce qu'il y a en moi, donc je n'ai pas besoin de le lui dire. » Et l'image que j'utilise, et qui m'a fait du bien à titre personnel, c'est l'image d'une grande armoire normande, avec plein de tiroirs. Okay ? Et dans chacun de ces tiroirs, ce sont des éléments de votre vie qui s'y trouvent. Ce qui s'est passé à l'âge de 15 ans. La joie que tu as pu avoir lors de tes 21 ans. La souffrance que tu as pu avoir lors de tes 22 ans. Les relations compliquées avec ton père. Le fait que ton père t'ait abandonné. Le fait que ta mère n'ait jamais été là parce qu'elle passait son temps à travailler. Tout ça s'est mis dans des tiroirs. Et si vous venez chez moi, ou si je viens chez vous, je n'ouvrirai pas les tiroirs sans votre autorisation. vous ne me verrez pas en train de ouvrir les tiroirs pour regarder ce qui s'y trouve. Ou alors vous aurez le droit de me regarder bizarrement et puis de me dire de prendre la porte. Eh bien Dieu, il fait pareil. C'est-à-dire qu'il a beau savoir ce qu'il y a dans les tiroirs. Il a beau savoir ce qui ne sent pas bon dans vos tiroirs. Il a beau savoir ce qui est caché dans ces tiroirs-là et que vous ne voulez pas forcément ouvrir. Le moyen qu'il nous a donné pour pouvoir y accéder, c'est la prière. C'est le fait que moi, je choisisse d'ouvrir le tiroir et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit pourra nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur. Dieu a beau savoir ce qu'il y a dans ta vie, il a besoin que tu lui en parles. Il a besoin que tu le lui dises. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de pointer du doigt le tiroir que Dieu veut que tu ouvres. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de dire, eh oh, j'aimerais te parler de ce qu'il y a dans ce tiroir-là. J'aimerais te parler de cette réaction-là. J'aimerais te parler de ces sentiments-là. J'aimerais te parler de ta relation à l'autre. J'aimerais te parler de ta capacité à pardonner. J'aimerais te parler de la distance qui a pu s'instaurer entre toi et moi. Ouvre ce tiroir de manière à ce que je puisse y travailler. Si je n'ouvre pas ce tiroir, Dieu étant un gentleman, il ne pourra pas œuvrer en moi. Et ça change ma vie de prière. C'est-à-dire que tout d'un coup, je ne suis plus en train de redire les mêmes choses. Mais il y a au moins deux conséquences. La première, c'est qu'il y a une véritable variété qui s'opère. Je partage avec mon Seigneur, avec mon Dieu, mon quotidien. Un petit peu comme avec mon meilleur pote ou alors ma meilleure copine. Vous savez, quand vous vivez quelque chose de sympa, qu'est-ce que vous faites, mesdames? Vous prenez votre téléphone et vous appelez votre meilleure copine en disant « Oh, tu sais pas ce que j'ai vécu ?» Elodie, non? D'accord, ok. Bon, c'est bon. Quand pour X ou Y raison, votre mari a été pénible, qu'est-ce que vous faites? Prends le téléphone. Tu sais pas ce qu'il a fait, il a encore fait ça, et puis c'est pour occuper des enfants, et puis truc, et puis machin, et puis bidule, et puis... Elodie, toujours pas? D'accord, ok. Et finalement, on partage. Et bien la prière, d'une manière, on va dire, un petit peu différente, c'est à peu près la même chose. C'est partager ce que je vis, partager ce que je suis avec mon Seigneur et avec mon Dieu. Premièrement, la prière est un partage. Deuxièmement, la prière, le but de la prière, ce n'est pas l'exaucement, mais le but de la prière, c'est la paix. On se souvient du texte que nous avons lu en introduction. Faites connaître à Dieu vos besoins avec des prières, des actions de grâce, point. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je le redis. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. L'apôtre Paul ne dira pas « et vous serez exaucés ». C'est-à-dire que lorsque je prie, je dois changer mon mindset. Certes, je dois rester dans une position de foi en sachant que mon Dieu est capable de tout accomplir. Et ça, c'est une réalité. Et c'est indéniable. Et Nathanaël nous l'a très bien dit ce matin, on a vocation à être étonné de la part de Dieu. Et on doit toujours s'attendre à être étonné de la part de Dieu. C'est logique, parce que Dieu est tellement plus grand que nous. Ça marche ? Mais ça, c'est de l'acquis. Dans ma relation avec Dieu, le plus compliqué, c'est que alors que je m'inquiète, ne vous inquiétez de rien, alors, eh bien, que j'aille chercher la paix. Parce que ne pas vivre en paix, c'est un enfer. Et puis, on le verra dans la troisième partie, mais ne pas vivre en paix, eh bien, c'est une condition et c'est l'une des sources pour lesquelles, eh bien, il y a une séparation avec Dieu qui s'opère. Donc, non seulement c'est un enfer, mais en plus, c'est un danger. Et donc, rechercher la paix, c'est pas quelque chose d'accessoire. Et l'outil essentiel que Dieu nous a donné, eh bien, c'est justement ce partage et cette relation avec Dieu. Parce que je vais être très humain, et pardonnez-moi, les pasteurs, nous sommes très humains. Mais quand je suis focus sur l'exaucement, alors, et que cet exaucement pour X ou Y raison ne vient pas, qu'est-ce que ça génère ? De la frustration. Et la frustration, automatiquement, met une distance entre Dieu et moi. Ça génère de la colère. Et pour quelle raison ? C'est parce que je prie le Dieu qui est tout-puissant, et le Dieu qui est tout-puissant ne m'exauce pas. Donc, le corollaire, dans ma petite tête de bipède, c'est quoi ? C'est de me dire, le Dieu tout-puissant ne m'aime pas puisqu'il ne me donne pas. On a beau être converti depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, quand on passe par la maladie, que l'on prie et que l'on n'est pas guéri pour X ou Y raison, on a un sentiment légitime de ne pas être aimé qui est tout à fait humain, quoi. Je me trompe ? Voyez-vous ? Être focus sur l'exaucement parfois nous éloigne du but primaire de ma relation avec Dieu, à savoir rester en paix. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est pas la peine d'aller voir les Assyriens qui sont au sud ou alors les Égyptiens qui sont au nord pour faire des alliances, parce que c'est le contexte de ce verset. Mais reste dans ta position. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Et tout le challenge de ta vie, tout le challenge de ma vie, c'est quel que soit ce qui peut se passer devant moi, d'en parler avec à Dieu, avec cette position de foi en disant « Hey, je sais que tu t'occupes des oiseaux des champs, des oiseaux, pardon, et du lys des champs. Je sais que tu t'occuperas de moi. Mais Seigneur, je le crois de tout mon cœur. Mais qu'est-ce que c'est dur, quoi. Et je partage ce sentiment. C'est dur d'attendre. C'est dur d'être entre le marteau et l'enclume. C'est dur parfois d'être regardé d'une manière bizarre. C'est dur parfois de supporter dans les églises des réflexions un peu simplistes. Ah, si tu n'es pas exaucé, c'est parce que tu ne pries pas assez. Ou que tu n'as pas assez de foi. C'est dur de voir les autres être bénis quand nous, nous ne le sommes pas. C'est compliqué. Et finalement, cet état de cause, le sens de la... nous met, j'allais dire, génère un décalage, génère de la frustration, génère de la colère. Et c'est de ça qu'il est nécessaire de parler à Dieu. J'en bave, Seigneur. Ça fait tellement d'années. Ça fait tellement de temps que j'y crois et que j'espère. J'ai reçu tellement de prophéties. On m'a donné tellement de paroles. Et pourtant, je ne vois rien venir. Et aujourd'hui, il y a une distance qui se crée entre toi et moi. J'en peux plus, quoi. J'en peux plus. La priorité, ce n'est pas d'être exaucé. La priorité, c'est que tu puisses retrouver ta paix. C'est ça l'essentiel. Le bout du tunnel, il viendra. La lumière viendra. La main de Dieu se posera. Mais dans ta relation avec Dieu, recherche celui qui est le Dieu de ta paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Pourquoi ça peut être important ? Quand je regarde à l'exaucement, je suis un petit peu l'esclave qui attend que le maître lui donne. Quand je recherche la paix, je me comporte en fils. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, nous le dira très très bien. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. ton Dieu prendra soin de toi. Ton Dieu sait. Ton Dieu connaît. Sa main se posera. T'inquiète pas. Allez. Ta main se posera. Toi, veille sur ton cœur, plus que sur toute autre chose. Recherche le Dieu de la paix. Troisième chose, c'est que la prière garde mes pensées en Jésus. Je peux être hyper désagréable, je vais le dire en plus d'une manière très, très schématique, de manière à vous réveiller parce qu'il fait chaud et que j'arrive, j'ai dit troisième partie, donc vous pensez que la prédication, à la fin de la prédication, approche. Mais vous ne savez pas combien de parties... Ah si, je les ai annoncées, zut. Dieu, alors c'est très schématique, hein, c'est très provocateur. Dieu n'en a rien à faire de ton bonheur. C'est vrai, quoi. Quelle est la priorité de Dieu ? C'est que tu sois sauvé. Alors, c'est faux ce que je viens de dire. D'accord. Mais c'est pour vous mettre en exergue que ce n'est pas parce qu'on est chrétien que d'ailleurs qu'on évitera toutes les galères que les humains peuvent vivre. D'accord ? Ok. Notre humanité est bien attachée à nous. Et ça, on n'y peut rien. Nous ne devons pas des super-héros qui, tout d'un coup, eh bien, devenons immunisés face à la méchanceté et à la bêtise des autres. Mais le but ultime de Dieu, c'est que nous puissions être sauvés. C'est que tu passes de la mort à la vie. Ok ? Alors, bien sûr, Dieu prendra soin de toi, ok ? Et Dieu s'occupera de ton bonheur. Ça marche ? Mais le but qu'il faut que tu gardes en tête, c'est qu'à un moment donné, ton cœur va s'arrêter de battre, ou alors Jésus va revenir, et eh bien, tu comparaîtras devant lui. Et qu'est-ce qui se passera à ce moment-là ? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et ça, c'est quelque part l'œuvre pour laquelle Dieu a envoyé Jésus, c'est pour que nous puissions être sauvés. Et comme je le disais en introduction, les soucis, les inquiétudes sont des parasites qui viennent, à un moment ou à un autre, générer une séparation. Un texte où vient à l'esprit ? Vous n'avez pas préparé votre prédication ou quoi ? La parabole du semeur. La parole tombe. Elle germe, mais elle peut tomber au milieu des épines, elle peut tomber eh bien, dans une terre qui n'a pas été préparée, etc. Cette parabole, soit on peut l'interpréter d'une manière, je veux dire, en disant qu'il y a certaines personnes qui peuvent être des cœurs durs et puis d'autres des terres bien préparées, ou alors on peut l'interpréter d'une autre manière qui me paraît un peu plus cohérente, en disant que dans nos vies, eh bien, il y a toujours des épines qui sont mises, il y a toujours des moments, des endroits de nos vies qui sont plus durs que d'autres. Il y a toujours des endroits où, finalement, eh bien, alors que ça pousse, on prend un coup de sécheresse. Les soucis, les inquiétudes viennent et prennent tout d'un coup une dimension qui nous font perdre de vue la personne de Christ. Et quelque part, l'enjeu pour moi, l'enjeu pour toi, c'est que quel que soit ce qui se passe dans ta santé, quel que soit ce qui se passe dans ton couple, quel que soit ce qui se passe dans ta famille, que tu restes focus sur le fait de rester en Jésus. La source de notre salut, ce n'est pas fonction de ce que nous faisons, mais la source de notre salut est fonction de ce que nous croyons. Est-ce que tu es encore en Jésus ? Est-ce que tu es enraciné ? Comment est-ce que nous le savons ? Quel est l'objet de tes pensées, en fait ? petit tableau de bord, petit voyant. Qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées ? Les réflexions qu'on a pu te faire, les contrariétés que tu peux vivre, qui repassent dans ta tête, ou alors cette volonté de partager, cette volonté d'offrir à Dieu, cette volonté d'inclure Dieu dans qui tu es, dans ce que tu fais, dans ton quotidien. Le but de ma vie de prière, c'est de cultiver mon jardin. Ça vient, c'est pas de moi, c'est de Voltaire, d'accord ? Dans Candide. Et de cultiver mon jardin, ce qui me préserve de la séparation d'avec Dieu. Imagine ton cœur comme un superbe jardin, mais dans lequel, tous les jours, il y a des mauvaises herbes qui poussent. Il y a de la sécheresse. Il y a des conditions météo qui ne sont pas forcément favorables. Imagine ton cœur comme un grand terrain qui n'est pas forcément toujours très très bien clôturé, et dans lesquels des personnes mal intentionnées viennent mettre des graines qui n'ont pas vocation à y être. Ton rôle, c'est quoi ? C'est d'enlever ce qui doit être enlevé, et ça, c'est le partage avec Dieu qui te le permettra. Et de, au contraire, de prendre soin de ce qui a vocation à y être. Et là encore, c'est ta relation avec Dieu qui te le permettra. As-tu ? La prière, c'est bien plus que de porter, même si cela est nécessaire, des sujets divers et variés. Dans notre vie d'église, c'est juste une nécessité. Ok ? Mais dans notre intimité avec Dieu, cette notion de partage, cette notion de vérité, cette notion de sincérité, c'est de l'essentiel. Et pour conclure, j'aimerais juste m'adresser à tous ceux qui ont un bout de leur cœur qui est fâché avec Dieu. J'aimerais juste m'adresser à quelqu'un qui, pour X ou Y raison, est assis là, mais à une partie de son cœur qui n'est plus avec Dieu, en fait. Parce que ça a été piétiné. Parce que tu as passé tellement de temps à regarder l'exaucement qui ne venait pas, à chercher le petit nuage d'Élie qui n'est pas venu, que tu en as oublié de suivre le Dieu de la bénédiction. Tu as tellement cru que ça allait venir vite, que ça allait venir rapidement, que tu en as juste oublié que l'essentiel, ce n'est pas ce que Dieu donnait, mais que l'essentiel, c'était qui Dieu était. Alors, reprends juste la main de Dieu. Présente-lui juste cette partie de ton cœur qui est pleine de colère, qui est pleine de rancœur. Et c'est normal. C'est ok. Présente-lui juste cette dimension. Et Dieu saura s'en occuper. Si ce matin tu pouvais déconnecter de tout ce que tu veux, tout ce que tu attends, pour juste te centrer sur l'essentiel. Celui qui t'a sauvé. celui qui a donné son fils sur le bois de la croix, qui a accepté que des clous soient plantés dans ses mains, que la couronne d'épines soit posée sur sa tête, qui a accepté que la séparation ait lieu afin que toi, tu puisses être sauvé. Juste ça. Si la partie de toi qui est fâchée pouvait se réconcilier avec celui qui t'aime, alors tu retrouverais la paix. Alors tu ferais taire le hamster qui tourne sans arrêt dans ta tête. Tu pourrais recommencer à sourire, recommencer à chanter comme tu le faisais avant. Juste ça. La main de Dieu est tendue. À toi de jouer. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux quelques secondes ensemble? Entrer dans cette introspection. C'est vous et Dieu. Qu'est-ce qui est fâché dans ta vie avec Dieu? Tu as espéré dans le baptême dans le Saint-Esprit qui n'est jamais venu. Et depuis, la vie de l'Esprit, c'est un truc dont il ne faut plus trop te parler. Parle-en à Dieu. Simplement. Un jour, David a eu à cœur de faire du bien à un membre de la maison de Saül. Il va faire venir Mephibosheth. Mephibosheth était boiteux parce que sa nourrice l'avait laissé tomber lorsqu'on lui avait appris la mort de son père et de son grand-père. La Bible nous dit qu'il était boiteux des deux pieds. David va le faire venir, va le réhabiter, Mephibosheth, dans toutes ses prérogatives, dans tout ce qu'il aurait dû avoir. Et le texte se finit d'une manière extraordinaire. Il est dit que Mephibosheth mangeait tous les jours à la table de David, point, il était boiteux des deux pieds. Ce que Dieu veut ce matin, c'est que tu retournes à sa table. Ce que Dieu veut, c'est que tu retournes dans son intimité. Même boiteux des deux pieds, même avec un cœur boiteux, même avec un cœur tortueux, même avec des années d'errance. Ce que Dieu veut, c'est que tu retrouves cette intimité avec lui. Ce que Dieu veut, c'est que tu reprennes sa main. Parce que ce que Dieu est prêt à faire, c'est à te rétablir dans toutes les prérogatives qui étaient les tiennes. Parce que tu as été fils. Et tu peux redevenir fils. Mephibosheth était boiteux des deux pieds. Point. Mais il mangeait pourtant tous les jours à la table du roi. Parle juste à ton Dieu. Simplement. Va le chercher, son cœur. Va chercher son cœur. Est-ce qu'on peut se lever à notre place ? Je ne connais pas la liturgie ici, pardonnez-moi. Juste lever les mains. Comme un signe de connexion à Dieu. Et puis, là où tu es à ta place, commence à le louer. Commence à bénir ton Seigneur, ton Dieu. Même boiteux des deux pieds, même avec un cœur malade, même avec un cœur tortueux, même peut-être avec un cœur plein de péchés, même avec des pensées pourries. Commence à louer ton Dieu. Commence à invoquer le nom de ton Seigneur sur ta vie. Viens dans ses appartements. Va le chercher, va chercher son cœur, parce que c'est ça qui compte. Seigneur, je te bénis parce que quelle que soit notre vie, quelle que soit, Seigneur mon Dieu, les parties de nos vies qui peuvent être malades, quelles que soient les souffrances qui peuvent être les nôtres, Seigneur, eh bien, je sais une chose, c'est que toi, tu es là, tu es présent. Quelles que soient nos fuites, quels que soient nos reculs, Seigneur, toi, tu restes en place. Seigneur, toi, tu restes toujours, Seigneur, assis sur ton trône, dans le trône de la grâce, Seigneur mon Dieu, dans lequel nous avons l'assurance de trouver un secours opportun. Quelles que soient nos craintes, quelles que soient nos peurs, quels que soient nos challenges, eh bien, je sais une chose, c'est que tu prends soin de mes frères et sœurs. c'est que, eh bien, tous ceux, toutes celles qui se recommandent à toi, Seigneur, eh bien, tu les visites d'une manière ou d'une autre. Et je prie pour que l'Esprit de Dieu, ce matin, passe, Seigneur mon Dieu, et vienne briser les chaînes, vienne briser les tristesses, vienne briser, Seigneur mon Dieu, les résistances. Je prie pour que les larmes sèchent, je prie pour que les tourments soient enlevés, et je prie pour que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde les cœurs et les pensées. Je prie pour ceux qui ont pu s'éloigner. Je prie pour les distances qui ont pu être mises, pour que l'Esprit de Dieu passe et vienne, Seigneur mon Dieu, et bien maintenant réconcilier, Seigneur mon Dieu, ce qui était irréconciliable. Merci mon Seigneur, et merci mon Dieu pour ta présence dans nos vies.